à le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc là, on voit qu'il faut donner la priorité à l'amour pour Dieu et à l'amour pour notre prochain. Et j'ai aussi repéré ce verset de Philippiens 1, 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Et dans la version Parole vivante, il est écrit ceci, c'est pourquoi je prie constamment pour vous. Je demande que votre amour mutuel augmente sans cesse, tout en s'enrichissant en pénétration et en tact, afin que vous puissiez mieux comprendre les autres et trouver leurs besoins réels. Alors vous saurez discerner les vraies valeurs et serez capable de distinguer l'essentiel de l'accessoire et de trouver en toutes circonstances la bonne manière d'agir. Et il me semble que là, il s'agit vraiment de la maturité spirituelle, le discernement spirituel. Donc, c'est cette capacité à reconnaître comme véritable, à sonder après examen ce qui est meilleur, prioritaire et plus important. Et donc, ça c'est un cheminement vers lequel on devrait aller. Il s'agit de distinguer ce qui est essentiel de ce qui est accessoire dans notre cheminement spirituel. C'est faire preuve de maturité spirituelle, ce qui exige une détermination radicale de nos priorités. Donc, vous voyez, c'est un sujet qui est très vaste. On ne pourra que le survoler, mais il mérite notre attention. Donc, se posent alors les questions suivantes. Quelles sont les priorités spécifiques à la femme chrétienne? Et pourquoi est-il important de les connaître? Quelle est la nécessité de respecter ces priorités? Ignorer ses priorités, c'est comme conduire sans direction, risquer de s'égarer. Quand on est sous la route, on a la voiture, on ne sait pas si, voilà, on ne connaît pas les priorités, mais on risque de faire des accidents aussi. On risque de ne pas arriver à destination, ou en tout cas en bon état. Et en tant que femme chrétienne, nous cheminons vers un but et notre Créateur nous fait connaître notre vocation particulière. En tant que femme, épouse, mère, dans notre rôle dans le foyer, et notre rôle dans le foyer en tant que membre de l'Église aussi. Et nous devons suivre toutes ces priorités pour accomplir notre mission. Alors nous allons voir dans un premier temps comment donner la priorité à Dieu, qui est le fer de lance de toutes les autres. Alors qu'est-ce que c'est que le fer de lance? C'est vraiment l'élément le plus dynamique qui va entraîner une motivation. Si on met pas, on donne pas la priorité à Dieu dans nos vies, nous ne serons pas motivés pour le reste. Et on risque de faire les choses à moitié. Et donc, c'est pourquoi j'ai choisi ce verset de Psaume 73, verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Et l'apôtre Paul lui-même a dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc il s'est fixé un but. Et nous aussi, nous devons nous fixer un but. Quel est le nôtre? Et quelles sont vos priorités pour pouvoir atteindre ce but? Colossiens 1, 18 nous dit que Jésus-Christ est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et donc le Seigneur veut être le premier dans nos vies. Et donc évidemment, la première des priorités, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de donner la priorité à Dieu et au royaume de Dieu. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alors, le sens du mot chercher, c'est dans le but de trouver, de découvrir. Il faut chercher, il faut découvrir. Cherchez, vous trouverez, Matthieu 7, 7. Le royaume de Dieu, c'est le territoire soumis à un roi. C'est la référence au règne du Messie. Et en Matthieu 7, 21, il est dit que ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc l'importance vraiment de l'obéissance à la parole de Dieu. Donc ce passage de Matthieu 6, 23 a été donné après une série de recommandations du Seigneur faisant partie du sermon sur la montagne, touchant aux relations humaines, mais aussi à la piété du croyant. Rechercher le royaume et la justice de Dieu vient après un long développement sur la nécessité de ne pas s'inquiéter pour les besoins élémentaires, habits et nourriture. Car Dieu qui est notre Père est bon et prendra soin de ses enfants. En Romains 14, 17, il est dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Pour être justifié et rentrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau, n'est-ce pas? Ça, vous le savez. Jean 3, verset 4, 5. Donc la première des choses, c'est, est-ce que vous êtes né de nouveau? Il faut vous assurer que vous êtes né de nouveau, que vraiment vous avez une vie nouvelle en Christ, que vous avez une relation avec lui. C'est la priorité, la première des choses, la plus importante. C'est même une urgence. On peut être né dans une famille chrétienne et finalement ne pas connaître la nouvelle naissance. Donc il faut s'assurer vraiment que ça c'est que vous avez une vie nouvelle en Christ, que vous êtes né de nouveau. Ça c'est très important. Et ce n'est pas parce que vous faites des choses, vous avez des œuvres, que vous faites des choses, vous allez à l'église, etc., que vous êtes né de nouveau. Quand on est vraiment né de nouveau, il y a des fruits qui en découlent et les affections changent. Et être né de nouveau, c'est donner la primauté au roi dans tous les aspects de notre vie. Enfin, chercher le royaume de Dieu, c'est donner la primauté au roi, Jésus-Christ, dans tous les aspects de notre vie. Le travail, le foyer, les relations. Dieu doit être au centre de toute notre vie et notre vie doit être centrée sur lui. Donc nous devons laisser le Seigneur régner dans tous les recoins de notre vie. Dieu en premier, ses intérêts en premier. Alors regardons l'histoire de cette femme, la veuve de Sarepta, dans 1 Roi 17. Regardez avec moi, on va lire ce passage. Alors, je demanderai à quelqu'un de lire parce que... Peut-être René, s'il te plaît. Tu peux lire du verset 7 au verset 16, s'il te plaît. Merci. 17.
Oui. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi. Va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. J'ai une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi, nous mourrons. Elle lui dit, Ne crains point. Rentre. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Et elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole de l'Éternel avait prononcée.
Merci. Donc vous voyez là, ici, c'est un contexte de famine. La pluie n'était pas tombée depuis très longtemps. Il n'y avait plus rien à manger. Et puis... le Seigneur avait ordonné à cette femme, pourtant qui était démunie, avec très peu de moyens, de nourrir le prophète. Et alors quand Élie lui demande de préparer à manger, elle a quand même expliqué sa situation, hein, précaire. Et puis, mais Élie a quand même accepté, Élie a quand même... insister. Pourquoi? Parce que Dieu lui a fait une promesse. La promesse que si elle donne en priorité à Élie, elle sert d'abord le prophète, eh bien Dieu va pourvoir à tous ses besoins par la suite. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle s'est conformée à la parole de Dieu. Elle a eu confiance dans les promesses de son Dieu. Et Dieu a été fidèle dans ses promesses, puisque ensuite, il ne lui manqua rien du tout. Et c'est vrai que des fois, on se dit, on arrive à la fin du mois, on n'a plus rien à manger, le réfrigérateur est vide. On se dit, oh, comment vais-je faire pour pouvoir terminer la fin du mois? Est-ce que je vais pouvoir inviter quelqu'un à manger? Ça va être difficile. Mais quand on veut vraiment donner la priorité à la parole de Dieu, il suffit de faire un repas très simple, hein, de la purée, quelque chose de très simple que l'on peut faire dans les placards. Pas besoin de faire quelque chose de compliqué. Mais quand il y a un besoin spirituel, besoin d'accueillir des frères et sœurs à la maison, on va quand même ouvrir le foyer, même s'il n'y a pas beaucoup de choses. Vous voyez, c'est un peu cette idée de vraiment mettre en premier les intérêts du royaume, plutôt que nos propres intérêts. Donc cette femme, elle a cru à la parole de Dieu, prononcée par la bouche du prophète, qui lui a dit de préparer premièrement pour Élie, et ensuite pour elle et pour son fils, et elle verra qu'il manqua pas de farine et d'huile dans son pot, jusqu'à l'arrivée de la pluie. La parole de Dieu s'est accomplie exactement comme Élie l'a prononcée. Et il est dit que pendant longtemps, elle eut de quoi manger. C'est formidable, hein? Le Seigneur est fidèle. Quand on obéit à sa parole, eh bien, il prend soin de nous, selon sa promesse. Et le problème, c'est que souvent, on connaît la parole de Dieu, mais on ne saisit pas les promesses. Et c'est ça qui fait qu'on passe à côté d'une priorité. La priorité, c'était vraiment d'accueillir, de faire à manger pour Élie. Et quelquefois, dans nos vies quotidiennes, on passe à côté d'une bénédiction spéciale parce qu'on ne... saisis pas la promesse de Dieu. Dieu nous promet qu'il pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. En Luc 12, 32 à 34, le Seigneur nous commande de nous détacher des biens de la terre et nous pousse à rechercher le vrai trésor céleste et à faire bon usage de nos possessions. À quoi utilisons-nous notre argent? Est-ce que c'est uniquement pour nous? Est-ce qu'il y a une part pour le Seigneur? Pour le bien des démunis? Pour l'œuvre de Dieu? C'est une question qui devrait nous tarauder l'esprit, parce que c'est un problème. On ne peut pas aimer Dieu et aimer l'argent. Donc il faut faire un choix. l'argent aussi appartient au Seigneur. Et il faut des fois mettre cet argent au service du Seigneur et de son royaume. Il y a beaucoup de choses qui sont en concurrence pour occuper le premier rang dans nos vies de femmes, n'est-ce pas? Quand on se réveille le matin, on a tout de suite envie de se préparer. Si on a des enfants, ben, il faut préparer les enfants. Et c'est normal, hein? Si on va au travail, il faut faire aussi la même chose. Il faut se lever, il faut préparer le repas. Mais est-ce que nous donnons la priorité à Dieu chaque matin, chaque jour? Souvent, le Seigneur nous a laissé un modèle de prière, notre Père, et il est dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et si on se dit qu'on ne donne pas la priorité à Dieu le matin, mais qu'on va prier le soir, ou bien qu'on fera le culte personnel le soir, on n'aura même pas fait cette prière, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est le matin qu'on a besoin d'avoir la direction du Seigneur et qu'on a besoin d'avoir qui nous comble de nos besoins. Vous voyez? Alors je sais que c'est très difficile, hein? Surtout quand on doit travailler, c'est très compliqué. Mais c'est le fer de lance. Il faut vraiment se rendre compte que si on ne met pas en priorité le Seigneur dans notre vie, quitte à laisser un peu de vaisselle, un peu de ménage, on met la parole de Dieu en priorité dans notre vie, la prière en priorité dans notre vie chaque matin, ça va changer tout le cours de la journée. C'est très, très important. Chercher premièrement le royaume, c'est mettre les intérêts du royaume en priorité avant tous les nôtres. Et bien sûr, il faut faire de l'obéissance à la parole de Dieu le socle de notre vie, des choix de la journée. Et Dieu pourvoira à tous nos besoins. Il faut lui faire confiance. Donc on a vu un petit peu la priorité au royaume de Dieu. Maintenant, nous allons voir la priorité à notre relation avec Dieu. On en a déjà un petit peu parlé, mais on va un petit peu méditer un peu plus en profondeur à partir du verset que nous avons vu ici, Matthieu 22, 38 à 39, où il est dit, Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Alors ici, le mot « aimer », c'est le mot « agapeo » qui veut dire « préférer ». Dieu doit avoir la préférence sur tout. Et le Seigneur ton Dieu, le mot « kuros », la suprématie. Celui, nous lui appartenons et donc il doit avoir la suprématie sur nous, sur notre vie. Dieu « théos », c'est la divinité, la trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le cœur cardia, c'est le centre et le siège de la vie spirituelle et physique. Et l'âme, alors il y a d'autres passages, âme, pensée, l'âme, psyché, c'est le souffle de vie, le siège des sentiments, des désirs et des affections. La pensée, c'est dianoïa, enfin en hébreu, c'est l'esprit comme faculté de compréhension, de sentiments et de désirs. Donc, il s'agit vraiment, dans notre relation avec lui, de faire du Seigneur le Seigneur de notre vie. Penser et vivre pour lui. Nous affectionner aux choses d'en haut. Le cœur, l'âme et la pensée constituent l'être intérieur. C'est notre être intérieur qui adore dans une communion intime et vivante avec Dieu qui est esprit. Et il faut que cette adoration soit conforme à ce que Dieu est en vérité et qu'il nous a révélé dans sa parole. Dans Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2, il est dit, Colossiens 3, versets 1 et 2, on peut lire ce passage. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc, il faut vraiment s'attacher, s'affectionner aux choses d'en haut. Si on aime la parole, on aime Dieu. Hein? Celui qui m'aime, Jésus a dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Donc, il faut aimer lire la parole, chercher à la méditer, à la mémoriser, aimer tout ce qui concerne Dieu, son Église, son peuple, développer une vie de prière, s'enquérir auprès des frères et sœurs de leurs besoins, chercher la communion avec le Seigneur et prendre plaisir à ses commandements. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est ce vers quoi nous devons tendre. Et c'est difficile parce qu'on a tellement de tâches à accomplir dans la journée, tellement d'occupations. Mais il faut faire l'effort. Les inconvertis, quand ils ont des conseils à trouver, eh bien, ils vont se tourner vers les pédopsychiatres, ils vont peut-être regarder les horoscopes, les psys, etc. Mais nous avons un livre qui va nous donner les meilleurs conseils en matière matrimoniale et éducative. La parole de Dieu est suffisante et complète pour nous guider dans nos choix. Et c'est auprès de Dieu que nous devons aller pour trouver la direction, les conseils pour nos vies quotidiennes. Et nous pouvons dire, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alors le bien, en hébreu, keraba, ça veut dire aller auprès de Dieu, comme aussi dans le sens de désirer l'approche de Dieu. Alors le bien, ça veut dire aussi une bonne chose. C'est mon bien, c'est une bonne chose. C'est un bienfait, c'est un bonheur, c'est quelque chose de valeur. Hein, c'est le sens en hébreu, hein, mon bien. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que vraiment vous faites de ce moment-là un moment d'une grande valeur? Qu'est-ce que vous mettez en place pour cela? Est-ce que vous faites de votre culte personnel une priorité chaque jour? Même si tout n'est pas fini dans la maison, mais ça c'est la priorité, ma relation avec le Seigneur. D'accord? Je place mon refuge dans le Seigneur afin de raconter toutes tes œuvres. Le refuge, c'est l'abri, c'est la retraite. C'est quand il y a des difficultés, eh bien, je vais venir au Seigneur pour qu'il puisse me conduire, me guider, m'apaiser aussi quand il y a des soucis, des conflits. Et c'est une question de confiance. Si je place mon refuge dans le Seigneur, ça veut dire que je vais lui faire confiance dans sa parole. C'est dans l'approche de Dieu, par sa parole et par la prière, que vous allez puiser l'énergie pour accomplir sa volonté et trouver les conseils nécessaires à votre marche quotidienne. Est-ce que aller auprès de Dieu, vous approcher de Dieu, c'est votre priorité, votre bien le plus précieux, votre plus grand plaisir? Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de distractions qui se présentent à nous chaque jour, mais nous devons faire le choix au quotidien de nous approcher de Dieu, et il s'approchera de nous. Regardez avec moi l'exemple de Marthe et Marie dans Luc chapitre 10, 38 à 42. Luc chapitre 10, 38 à 42. Et je vais demander à une sœur que je connais. Hélène, tu vas lire pour nous, s'il te plaît. Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Donc voilà, Marie a choisi la bonne part en donnant la priorité à l'écoute de Jésus, à l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est la seule chose qui est nécessaire. C'est ça qui est le plus important. Le reste, c'est important aussi, mais Ça peut se faire après. Moi, je me rends compte que plusieurs fois dans les situations de ma vie, quand je travaille à la maison, je suis aussi une nounou à la maison. Donc, j'ai des petits-enfants que j'accueille. Et je voulais absolument que tout soit prêt la veille. Tout soit prêt la veille pour que... C'est l'idéal, hein? Tout soit nickel dans la maison. Et puis, quand c'est finalement, ce n'était pas le cas, je me dis, bon, le matin, il faut que je le fasse. Fasse le ménage, etc. Préparer les repas. Normalement, dans mon organisation, il faut que tout soit nickel la veille. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours possible. Hein? Parce que soit qu'on est allé, on est rentré plus tard, ou qu'on a eu une mauvaise nuit, etc. Mais depuis que j'ai compris cela, je m'oblige à prendre du temps avec le Seigneur en priorité. Et quelquefois, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais préparer à manger pour les petits. Je n'ai pas forcément organisé les choses. Mais quand je demande à Dieu de m'aider, dans ce temps de prière que j'ai avec lui le matin, il me dit, ben tiens, fais ça. Et finalement, les choses s'arrangent, s'organisent, tout simplement. Et je n'ai pas le stress, je n'ai pas l'inquiétude pour cela. Et je vois vraiment que le Seigneur, il honore hein, quand on le met à première place. Hein. Et après, les choses se déroulent d'une manière calme, tranquille, paisible. Donc, dans notre vie quotidienne, il est avec nous. Il nous conduit, il nous guide. Mais seulement, il faut lui donner la priorité. Il a des choses à nous dire. Il nous parle dans le secret de notre cœur. Et il nous montre même ce qu'il faut faire au quotidien dans notre vie. Donc Marie a choisi la bonne part, c'est vraiment de rester au pied du Seigneur et de donner la priorité à la relation avec le Seigneur, à l'écoute de sa parole. Attention à ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs, n'est-ce pas? Beaucoup de programmes télévisés et de films se moquent de Dieu dans leur philosophie et on perd son temps à écouter cela. Et donc, on se laisse influencer par ces programmes. C'est un danger. Quelquefois, on n'a pas le temps de lire la parole de Dieu le matin, mais on a le temps de scroller sur les réseaux sociaux, de regarder la télé, etc. Donc, il faut vraiment choisir les bonnes priorités en tant qu'enfant de Dieu. Sinon, on passe à côté de quelque chose de très, très beau, de merveilleux dans notre marche avec le Seigneur. Et donc, une chose qui m'a semblé importante aussi, c'est de voir que nous devons chercher à cheminer vers la maturité spirituelle. C'est une priorité. Parce qu'on peut se dire, ah, je suis chrétienne, j'ai été sauvée, c'est formidable, j'ai une église. C'est magnifique de se retrouver et c'est très, très bien. Mais le Seigneur, il a un but pour chacune d'entre nous en tant que chrétienne. Et il veut que nous cherchions à progresser spirituellement. Et ça doit être notre priorité, de chercher à progresser spirituellement. C'est ce qu'on appelle en gros la sanctification. Ce terme désigne la réalisation progressive d'une vie de sainteté dont le secret réside dans la communion avec le Christ vivant et dans l'abandon à l'action du Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Et dans ce passage, le contexte est surtout dans le domaine de la sexualité et de la gestion de l'argent. Mais on ne va pas s'étendre dessus. Mais si vous étudiez, vous allez voir. Le Saint-Esprit œuvre dans le croyant pour qu'il s'écarte du péché et s'affectionne aux choses de Dieu et pour qu'il obéisse à ses commandements. Donc, heureusement qu'on a l'Esprit de Dieu qui nous aide et qui nous pousse vers la progression dans la sainteté. Le Seigneur nous a rendus justes. Donc, si vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu une nouvelle créature, vous êtes justifié. J'espère que c'est le cas pour tout le monde ici. Mais aussi, vous êtes sanctifié, mis à part pour son service et pour obéir à sa parole. Donc, la sanctification, c'est une suite logique de la régénération. il n'y a pas de sanctification sans conversion et régénération. D'accord? Donc là encore, je vous repose la même question. J'espère que vous êtes régénéré, parce que sinon, comment allez-vous progresser spirituellement si vous n'êtes pas régénéré? C'est vraiment une urgence. Donc, c'est une doctrine essentielle de la foi chrétienne qui mérite étude et approfondissement, mais on ne va pas s'y attarder là, ce n'est pas le propos aujourd'hui. Mais gardez à l'esprit que c'est une œuvre de l'esprit qui va orienter nos priorités vers ce qui est essentiel à l'aboutissement de la sanctification. Le Saint-Esprit va aussi travailler à cela dans notre vie. Mais nous avons notre part à accomplir. Et lui, il œuvre aussi à cela. C'est parce qu'il qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut que nous soyons parfaits. Le Seigneur veut notre perfection ou notre maturité spirituelle. Matthieu 5, 48. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors, quand j'ai relu ça, je me suis dit, mais je ne vais jamais être parfaite. Ce n'est pas possible. J'ai trop de défauts. Mais c'est un cheminement. Et c'est le mot, j'ai recherché du coup ce que ça voulait dire, hein. Soyez parfait, ça veut dire être accompli, avoir une vertu, une intégrité humaine, consommée, être complètement développé. Et alors j'ai regardé un petit peu plus le contexte de ce passage. Et j'ai vu que ce commandement fait suite à l'idée ou la loi selon laquelle tu détesteras ton ennemi. Et le Seigneur rectifie cette pensée, parce que dans la loi des Juifs, il croyait qu'il fallait détester les ennemis. Et le Seigneur rectifie cette pensée en disant qu'il fallait aimer ses ennemis, prier pour eux. C'est ainsi que nous allons être parfaits, ressembler à Dieu qui nous a aimés alors que nous étions ses ennemis. Vous allez forcément trouver dans votre entourage des personnes qui ne vous sont pas très, très sympathiques, qui va se dresser contre vous. Un patron, un mari abusif, des enfants incontrôlables. Mais on va être parfait quand on va apprendre à aimer ces personnes-là. Et nous devons demander au Seigneur un cœur pour les aimer et prier pour eux. C'est comme ça que nous allons progresser dans la perfection. D'accord? Donc, nous n'allons pas forcément devenir parfaites ici-bas, mais nous devons tendre vers cette perfection. En Philippiens 3, versets 12 à 17. Philippiens 3, versets 12 à 17. Je vais demander à Bina de lire pour nous. S'il te plaît, Bina. Philippiens 3, versets 12 à 17, s'il te plaît. Voilà, il y a d'autres traductions qui disent « marchons dans la même direction et vivant en plein accord ». Et donc là, le but de l'apôtre Paul, c'est aussi, vous voyez, de tendre vers la perfection. Hein. Il a dit « ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint, mais je cours pour tâcher de m'en emparer ». Et c'est ce que nous devons faire, nous devons courir, nous devons cheminer pour tâcher de nous emparer de ce but. Et comment est-ce qu'il a fait? Il a oublié ce qui est en arrière. Parce qu'il y a des choses qui nous pèsent des fois, n'est-ce pas? Dans notre passé. Il y a des choses qui peuvent nous détourner de notre but. La vie passée avec nos anciennes habitudes, pécheresses, notre caractère, nos habitudes culturelles, notre éducation, tout cela peut nous empêcher vraiment d'aller vers le but. Donc il faut examiner ces choses qui étaient un temps une priorité pour nous quand nous n'étions pas chrétiennes, mais qui ne doivent plus l'être maintenant, que nous marchions en nouveauté de vie. Il faut mettre de côté tout ce qui est nuisible et empêche d'atteindre le but de Dieu pour nous. Ne nous attardons pas sur notre passé, mais tournons nos regards vers la connaissance de notre Seigneur. On peut par exemple avoir vécu une situation difficile, perdre un enfant, avoir connu le divorce, la séparation, ou bien avoir eu un enfant hors mariage. Ce sont des choses qui peuvent arriver à tout le monde, ça peut arriver dans le passé. Mais il ne faut pas que cela puisse freiner notre marche et notre cheminement en se disant « Oh, mais ma vie, de toute façon, avec ce qui s'est passé dans le passé, avec ce qu'il y a eu dans le passé, je n'y arriverai jamais. » Non, il ne faut pas. Il faut oublier ce qui est dans le passé et cheminer vers le Seigneur. Il ne faut pas que ce soit des choses qui nous freinent, qu'on soit honteuse. Le Seigneur a déjà tout effacé. Et il veut faire de nous, chacune, là où nous sommes, des personnes parfaites. Quel que soit votre passé, même si vous avez connu l'avortement ou ce genre de choses, le Seigneur pardonne si vous confessez vos péchés. Il est mis au fond de la mer. Mais il veut faire cette œuvre de sanctification et de maturité, de perfection en vous. Donc ça, il faut vraiment le croire. Dans Hébreux 12, verset 2, il est dit « Courons avec persévérance les yeux fixés sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. » Voilà, le Seigneur veut mener notre foi à la perfection. Donc maintenant, il y a un choix qui se présente à nous. Est-ce que nous allons continuer à être tels que nous sommes, découragés par notre vie passée, ou est-ce que nous allons tendre vers ce qu'il y a de meilleur? Dans Hébreux 5, versets 11 à 14, lisez avec moi encore ce passage, très important. Hébreux 5, et je vais demander à Suzanne de lire pour moi. Hébreux 5, Suzanne Ossac. Merci Suzanne.
Il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal.
Voilà, donc il y a ici deux choix qui se présentent à nous. Soit on continue à rester au stade de bébé, d'enfant, hein, en se contentant de connaître juste les doctrines de base concernant le baptême, le salut, etc., en se disant, ça suffit, je suis chrétienne. Ou soit, on va chercher à devenir une adulte en Christ, un mentor, une enseignante pour vos sœurs. Soit on va chercher à avoir du discernement spirituel, c'est-à-dire chercher à identifier le bien du mal. Parce que des fois, il y a des choses qui se présentent à nous et ce n'est pas forcément les meilleures choses à choisir. Il faut vraiment du discernement. Hein. Ou soit on va aussi chercher à approfondir notre compréhension de Christ ou nous contenter d'enseignements de base. Alors que le Seigneur nous a dit de croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en Éphésiens 4, verset 12 à 13, il est dit que nous avons reçu, nous avons des enseignants, nous avons des pasteurs dans nos églises qui travaillent à notre édification. Et donc, nous devons chercher à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, soit on va travailler pour que notre église reste unie et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, ou bien soit on va créer des discordes. Pourquoi ? Parce que finalement, on ne connaît pas beaucoup la parole. Hein. Et on ne réagit pas comme il faut. Hein. On ne donne pas la priorité à Dieu dans notre vie. Et finalement, on est un instrument d'injustice quelque part. Et puis aussi, on peut vite s'égarer doctrinalement. Et on peut être ballotté, emporté doctrinalement. Donc ça aussi, si on n'a pas cette connaissance, ce discernement spirituel, le risque est grand. Vous voyez ? Donc il faut chercher à être un adulte en Christ pour développer des capacités à discerner le bien du mal. Et ça doit être notre priorité. Les risques sont réels. Le discernement s'apprend, il s'acquiert avec la pratique de la connaissance, de la réflexion, de l'obéissance, de la méditation. En Proverbe 8, 5, il est dit, je cherche pour vous. Vous qui manquez d'expérience, apprenez le discernement. Vous qui êtes stupide, apprenez le bon sens. Le discernement s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend, mais au fil de notre entretien, de nos études avec le Seigneur. Et si on passe à côté de cela, on n'aura pas de discernement quand on va se retrouver devant des choix importants. Ou quand on va vouloir enseigner une sœur plus jeune que nous. Vous voyez ? C'est très, très important. Nous avons besoin de grandir dans un amour rempli de connaissances de Dieu pour discerner les choses les meilleures, d'après Philippiens 1:10. Nos vies débordent d'activité et il faut aller à l'essentiel. L'essentiel. Faire le tri de nos activités et prioriser celles qui vont nous amener à la maturité spirituelle. Comme nous exposer aux enseignements dispensés dans nos églises, ça c'est très important. On ne va pas dire, oh je suis fatiguée aujourd'hui, je ne vais pas aller à l'étude. Mais on rate un enseignement qui a été préparé spécifiquement pour nous. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaîtrons pas en dehors de notre église. Donc c'est très important de pouvoir s'exposer à la parole de Dieu. Tout cela participe à notre maturité spirituelle. Et donc Dieu aussi veut que nous soyons remplis de son esprit. Donc le mot rempli, ça veut dire pléro, rendre plein. En fait, il s'agit d'accomplir la volonté de Dieu. Et on ne peut pas accomplir la volonté de Dieu si on n'est pas en contact avec sa parole. Et pour cela, il faut se nourrir de la parole de Dieu, il faut chanter ses louanges, cultiver la reconnaissance. La parole de Dieu nous dit, rendez grâce en toutes choses au Seigneur, en toutes choses. Et si on ne prend pas l'habitude de rendre grâce à Dieu pour tout ce qui nous arrive dans la vie, eh bien, ça va être remplacé par de la plainte, des murmures. Il faut que nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que nous vivons. Parce que ce sont des bienfaits. Et ne serait-ce que simplement, merci Seigneur pour le beau temps, merci Seigneur pour... Il faut arriver à réorienter ses pensées pour ne voir que ce qui est bien dans ce que nous vivons. D'accord ? Donc il faut vraiment cultiver la reconnaissance. Et Dieu veut que nous propagions l'évangile. Donc nous avons été sauvés afin d'annoncer les vertus de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu veut que nous propagions l'évangile. Ça aussi, c'est une priorité en tant qu'enfant de Dieu. Très important. Alors, il faut réfléchir, mais qu'est-ce que je veux mettre en place pour en faire une priorité. Par exemple, me munir de traités. Déjà prier, c'est très important de prier. L'apôtre Paul, quand il voulait annoncer l'évangile, il disait « Priez pour moi afin que les portes s'ouvrent, que je puisse annoncer l'évangile. » Et donc, il faut prier. Et puis, il faut se munir de traités ou de petites choses. Et le Seigneur, il ouvre les portes. Il ouvre les portes avec vos collègues, avec votre famille, quand vous avez des occasions de vous retrouver. Donc, c'est vraiment important de donner la priorité à l'annonce de l'évangile. La vie est très courte. Hier, j'ai appris le décès du mari de ma belle-sœur. Il avait 60 et quelques années. Et c'est vrai que je me rappelle qu'on avait, mon mari et moi, parlé du Seigneur il y a très longtemps. Et c'est triste. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc, on a quand même la responsabilité de le faire, d'annoncer l'évangile. Après, ce n'est pas nous qui sommes responsables du choix, mais nous avons la responsabilité d'annoncer l'évangile aux gens. Parce qu'on ne sait pas quel est le terme de leur vie. Et ça doit être une priorité parce que nous pouvons être les seuls à le faire. Nous pouvons être la seule chrétienne capable de pouvoir annoncer l'évangile à notre collègue, à notre voisin, à un parent aussi. Donc c'est très très important, il faut vraiment en faire une priorité. Et puis Dieu veut que nous ressemblions à Christ. Romains 8, verset 29. Dieu veut que nous soyons semblables à Christ. Romains 8, verset 29. En effet, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Donc Dieu veut que nous soyons conformes à l'image de son fils, lui ressembler. C'est notre modèle suprême. Il faut lire les évangiles, comprendre sa manière de vivre. Et c'est vraiment notre modèle pour pouvoir lui ressembler. Quand il était sous la terre, le Seigneur disait que sa nourriture était de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Et comme nous, il a été tenté en toutes choses. Et il a dû faire des choix pour donner la priorité à ce qui l'aidait à accomplir la volonté de Dieu. Et plus nous allons accomplir la volonté de Dieu, appliquer la volonté de Dieu, oui, appliquer la parole de Dieu plutôt, et plus nous allons ressembler à notre Seigneur, et nous allons le refléter, d'après 2 Corinthiens 3, 18, et c'est vrai. Et ensuite, un dernier but que nous allons voir, c'est que Dieu veut que nous glorifions Christ, Dieu veut que nous le magnifions, que nous lui rendions des honneurs, que nous fassions, que nous reflétions son caractère, ses vertus. Notre priorité, c'est vraiment de progresser dans notre marche chrétienne, dans une vie de parfaite communion avec le Seigneur et vers une perfection et sainteté à l'image de notre Seigneur. En raison de cela, du dessein de Dieu pour nous, eh bien, nous devons donner la priorité à notre communion avec le Seigneur pour qu'il nous transforme à l'image de son Fils. Voilà, il faut donner la priorité à Dieu. On va s'arrêter là et ensuite on va reprendre pour la suite. On va voir après comment donner la priorité à notre prochain et la question de la famille, des relations familiales et du travail. Voilà, merci pour votre écoute et à tout à l'heure. C'est bon l'heure.
Oui.
Donc, on a vu tout, dans cette première étude qu'il faut donner la priorité à Dieu, à son royaume, à sa relation avec lui, et que c'est le fer de lance de toutes les autres priorités. Maintenant, nous allons voir les autres priorités, nos relations avec le prochain. Et donc, si on n'a pas cette relation intime, cette communion avec le Seigneur, les autres relations vont en pâtir. Hein? Donc, c'est vraiment très important que nous ayons cette relation avec le Seigneur. Et on a vu aussi que c'est très important de cheminer vers la maturité spirituelle. Ça doit être pour nous un but. Et pour cela, forcément, il y a des priorités quand on veut cheminer vers la maturité spirituelle. Alors, nous allons nous baser sur l'étude de Tite, chapitre 2, versets 3 à 5, où il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc, ici, là, nous voyons donc qu'il faut donner la priorité à notre prochain et que c'est la femme âgée qui a une influence sur les plus jeunes pour lui apprendre comment aimer le mari et les enfants, afin que la parole de Dieu soit honorée. Rappelons-nous que l'objectif de Dieu pour nous est la maturité spirituelle. Pas que nous restions des bébés, des enfants, à l'état de lait. Mais que nous devenions des enseignantes, des mentors, des femmes capables d'enseigner à d'autres. Nous sommes toujours plus âgées qu'une autre, toujours. Si vous avez un foyer, que vous avez des enfants, vous avez vos propres enfants, il faut les enseigner. Et vous pouvez être le mentor de votre fille ou de votre garçon. Et dans dans ce passage, donc, l'apôtre brosse un portrait d'une femme qui est apte à enseigner. Et il est dit dans la traduction Bible du français courant, dit que les femmes âgées doivent avoir un comportement qui honore Dieu. Donc, tout doit être conforme à la saine doctrine pour que règne l'ordre et que tout ce qui est enseigné pousse à la sainteté. Rappelez-vous qu'au début, donc, le but de Dieu pour nous est notre sanctification. Le comportement, la manière d'être est très, très importante. Parce que si on veut devenir une enseignante, notre manière d'être, notre conduite va parler plus que ce que nous allons dire. Il faut même que la tenue soit le reflet de la sainteté, pas la mode du moment. Et que la femme âgée, quand on dit âgée, souvent ici, c'est des femmes qui ont déjà eu l'expérience, hein, qu'elle use de son influence pour faire honorer la sainte doctrine. Alors, la question de la tenue qui honore Dieu, on a plus de précision dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 9 à 15. 1 Timothée, chapitre 2, versets 9 à 15. Ça, c'est un combat, parce que le monde n'offre pas forcément des tenues qui sont conformes à la sainteté. 1 Timothée, chapitre 2, versets 9 à 15. Alors, qu'est-ce qu'il veut lire pour moi? Qu'est-ce qu'il veut lire? Tu veux, s'il te plaît? Merci.
Femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. je me permets pas à la femme d'enseigner.